Radio Champo.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Radio Champo sur Radio Albigès. Au sommaire aujourd'hui, on vous propose de revenir sur un atelier qui a eu lieu le 20 octobre dernier au foyer de la fac Champollion. Hubert Julien est venu présenter la fresque climat, un atelier participatif sous forme de jeu collectif qui explique le changement climatique. Zoé et Solal l'ont rencontré à cette occasion et on écoutera leur interview. Ensuite, on va vous parler du mois sans tabac avec les étudiants et étudiantes en infirmerie. Comme chaque année au mois de novembre, Tabac Info Service lance une campagne pour sensibiliser aux dangers du tabac et propose aux volontaires d'arrêter pendant un mois. Les futurs infirmiers et infirmières ont rencontré quelqu'un qui a réussi à arrêter le tabac et qui nous livrera son témoignage, qu'on écoutera donc en deuxième partie d'émission. Et puis pour finir, on écoutera la chronique de Levana, présentée en compagnie de Lucas. Cette semaine, pas de thème féministe, mais deux films coups de cœur pour prolonger un peu l'esprit d'Halloween. Une fête qui a été un peu éclipsée par l'actualité chargée de cette année, mais qui a toujours beaucoup inspiré les réalisateurs et réalisatrices de cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Champo, en direct de Radio Albigès. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et nous interviewons Hubert Julien qui propose une animation fresque du climat au foyer de 12h30 à 14h30. Alors tout d'abord, nous allons vous demander qu'est-ce que c'est que ce jeu de société qui est centré sur l'environnement et sur le réchauffement climatique.
Bonjour. Alors, la fresque du climat, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un outil de vulgarisation scientifique qui nous explique, comment les activités humaines ont des effets sur l'environnement et leurs conséquences. Donc, en fait, c'est, si vous connaissez les rapports du GIEC, qui sont donc les rapports d'études d'évolution du climat, qui sont des rapports très chouettes, mais un petit peu technique et un peu redondant. Et donc voilà, il y a un ingénieur qui a décidé de faciliter les informations dans un jeu de cartes. Donc le jeu adulte classique fait 40 cartes. Il y a plusieurs manières de l'animer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, sur une grande feuille, essayer de donner la possibilité aux participants de retrouver l'ordre logique de ces cartes, de cause à effet. Et donc voilà. Et donc c'est un jeu qui, là par exemple cette animation autour d'une table, c'est vraiment un jeu participatif et collaboratif. Donc voilà, c'est au-delà de comprendre l'évolution du climat sur Terre, et ben il y a vraiment quelque chose de collectif qui se crée et c'est ça qui est très sympa.
Alors bonjour, moi c'est Solal, hein. Vous m'avez pas entendu juste avant, mais moi là je suis là. Hein. Seconde question, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des climato-sceptiques qui ont joué à ce jeu ou non ?
Ou ça restait du grand public comme ça, qui ne connaissait pas vraiment tout le problème du réchauffement climatique ?
Alors, pour avoir animé cette fresque un peu dans différents milieux, parce que du coup il y a aussi des jeux enfants qui existent.
Ah, d'accord.
Donc on l'a animé dans des écoles primaires. Les plus jeunes à qui on a animé, je crois qu'ils avaient 7-8 ans, donc c'est assez jeune.
Ah oui.
Et donc le jeu, il est bien fait pour ça. Donc là on est vraiment dans l'explication. C'est beaucoup explication de concept, on n'arrive souvent pas à faire la fresque en entière, mais voilà, c'est déjà super. Et après, bon voilà, on l'a animé au collège, au lycée, dans des associations, en entreprise, en collectivité, municipalité. Donc voilà, comme je vous dis, vraiment un peu n'importe où, dans différents endroits. Et climato-sceptique, eh ben non, j'ai eu peu de personnes réfractaires, parce que du coup, c'est vrai que les personnes qui le seraient, ben finalement, vont peut-être pas trop avoir la confiance, et parce qu'ils se disent ah ben on tombe sur un outil que c'est quand même c'est factuel quoi, c'est des données scientifiques et donc on peut les contester, mais du coup, il y a un peu de travail à faire, quoi.
Ouais.
Juste,
ouais,
ce qu'on a plus rencontré, c'est, comme c'est une animation participative, des personnes qui prennent pas mal de place Pas de climato-sceptiques, mais plutôt des gens qui débordent un peu, qui je dirais, sont un peu, qui se rendent pas compte, qui respectent pas trop la parole partagée.
Ouais.
Et donc, voilà. Et bizarrement, c'est souvent des hommes. C'est surprenant, hein.
Ouais.
Voilà.
Vas-y, féministe.
Non, mais du coup, c'est, je trouve que c'est chouette de vivre ces moments-là, où justement, et d'arriver en fait à expliquer à la personne qu'est-ce qui se passe. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé en fait de prendre la personne à partie et de lui demander de sortir du jeu pour lui expliquer que, s'il veut continuer, va falloir qu'il respecte
la prise de parole,
le temps de parole, en fait.
Oui, ouais. Oui, qu'il respecte aussi les opinions des autres, qu'il n'est pas le seul à jouer au jeu, en effet.
Voilà, c'est pas que simplement sur l'environnement, c'est aussi sur les rapports humains, finalement.
Ouais, mais c'est bien, mais ouais. Tant mieux, mais c'est ça aussi, c'est le réchauffement climatique touche aussi le côté social, enfin, donc les rapports humains et comment est-ce qu'on le perçoit en fonction de notre milieu, notre milieu social, notre milieu professionnel, oui, c'est sûr que tout à fait, ça change énormément. Donc du coup, vous intervenez que sur la commune d'Albi, là-dessus, ou... C'est très vaste.
Moi, c'est un peu particulier. En fait, je suis dans une année de voyage.
Ouais.
Mon voyage m'a amené à Albi. Alors, j'ai mon petit jeu de cartes avec moi. C'est pratique. Ça mesure. C'est vraiment tout petit. Et du coup, je l'anime ici, mais je l'anime aussi à... Moi, je viens de Annecy.
D'accord.
Donc voilà, un peu sur ma route, quoi. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit.
Ouais,
oui, en fait, la fraise du climat, c'est un jeu que j'ai découvert l'an passé. Mm-hmm. Et comme je disais, en fait, il a été développé par un ingénieur qui a travaillé au GIEC, si je dis pas de bêtises.
C'est quoi le GIEC?
Ah, pardon. Alors, le GIEC, c'est... qu'est-ce que ça veut dire, le GIEC? Le groupement...
Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, c'est ça?
C'est des experts, ouais. Voilà, commandés par les États. Merci. J'ai perdu le groupe, c'est ça. Et donc, c'est une association qui s'est créée, qui est basée en région parisienne, si je dis pas de bêtises. Et on a des animateurs partout en France et à l'étranger. Et donc, l'objectif de la fresque, enfin de l'association, c'est d'arriver à faire 1 million de fresques.
D'accord. D'accord. Oui, pour sensibiliser le grand public au maximum.
Ouais, c'est ça. Et donc, je ne sais pas encore combien on est de fresques, le compteur.
Non, mais c'est très bien parce que moi je connaissais pas cette animation avant et c'est vrai que oui, de ce que vous en dites, c'est très intéressant. Et alors, du coup, après le ressenti des gens après qui ont terminé cette fresque, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que du coup ils ont envie de changer des choses dans leur quotidien?
Alors, oui, ça c'est l'ouverture. À la fin du jeu, c'est un moment qui est pour moi, c'est limite le moment le plus important, quoi. On pourrait limite se passer de certaines cartes pour gagner du temps et avoir plus de temps pour conclure à la fin. La déclusion, je ne sais pas comment on peut appeler ça. L'idée, c'est de faire à la fin un tour de table,
ouais.
Et de questionner les émotions ressenties par les participants et qu'est-ce qui les a marquées. Puisque je crois que c'est grâce aux émotions, à l'accueil de cette énergie qui nous vient, qu'on peut arriver en fait derrière à agir. Et en fait, c'est clairement le but de cet outil, c'est de créer, de dynamiser, de créer de la participation, créer des projets, des choses comme ça. Et donc, en fait, si on a le temps, nous on a organisé par exemple une après-midi, on commençait par la fresque,
oui.
Et derrière, on allait prendre un temps pour imaginer les solutions. Et donc, dans l'idée, c'est vraiment ça en fait, c'est de que ça soit un point de départ, un commun. On a un outil, on a des données, on fait un constat commun, et puis ensuite, on peut construire quelque chose ensemble puisqun part d'une base.
D'un socle commun. D'accord, très bien.
Dernière question, hein. 1000 euros. Attention. Vous faites partie d'une association albigeoise nommée Écrevisse. Que veut dire écrevisse, s'il vous plaît?
Alors, écrevisse, c'est un acronyme. Par contre, l'association est annécienne, en Haute-Savoie.
D'accord.
Pas du tout du coin.
Ah, d'accord.
Donc, c'est une antenne qui s'est montée après.
Et en fait, il n'y a pas d'antenne ici. Moi, je suis vraiment juste de passage et
d'accord.
Ouais, je suis un peu électron libre.
Okay.
tout à fait. Et Écrevisse, donc pour la petite histoire, c'est un projet, c'est un lieu associatif. C'est une ancienne menuiserie qu'on a transformée en atelier partagé, en espace de rencontre, de mutualisation, de compétences, d'outils et d'expérimentation. Et donc, en fait, juste en dessous de l'atelier qu'on a investi, se trouve un espace naturel sensible où les écrevisses à pattes blanches, qui est l'espèce endémique française, est en voie de disparition et donc une espèce protégée. Et donc, on a choisi ce nom et on en a fait un acronyme qui veut dire espace commun de rencontre extraordinaire, vecteur d'idées à suivre.
Ok. Et ça serait intéressant de nous dire quels sont vos projets, du coup, les projets d'écrevisse, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans le futur, peut-être ?
Alors, c'est assez vaste, les ambitions sont assez vastes aussi. Comme, en fait, c'est vraiment de la famille des lieux indépendants, intermédiaires, tiers-lieux, enfin, tous ces gros mots qu'on peut utiliser. Mais c'est vraiment dans les familles du commun, en fait. L'idée, c'est de venir recréer des espaces de rencontre, des espaces vraiment de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme... l'idée, voilà, c'est de redonner la possibilité aux gens de gagner en conscience et en autonomie dans leur vie. Donc un espace pour pouvoir fabriquer soi-même, réparer soi-même. Et pourquoi pas se construire une nouvelle activité pour avoir une vie plus en adéquation avec ses valeurs. Voilà, c'est un peu les objectifs de l'association. Et aujourd'hui, l'écrevisse accueille une quinzaine d'artisans de tout genre. Travail du bois, travail du métal, de la peinture, poterie, sérigraphie, tissage, bidouillage informatique, design. Enfin, c'est assez vaste. Et en même temps, il y a tout un volet événementiel d'accueil d'événements, que ce soit des projections, des conférences, des ateliers en tout genre. Voilà, la semaine prochaine, on reçoit un groupe de travail sur justement les lieux ruraux et des financements européens. Enfin, c'est vraiment très varié. Moi, je définirais l'écrevisse comme une MJC à son origine. Aujourd'hui, les MJC sont très normés, sont très réglementés.
C'est quoi MJC ?
Ah pardon, c'est la maison de la jeunesse et de la culture, donc qui a été créée dans les années, je sais pas, c'est à l'après-guerre quoi,
oui,
les 60,
oui,
je dirais. Et aujourd'hui, c'est des centres qui sont très enclavés, enfin qui sont très très figés. La particularité de l'écrevisse, c'est que c'est un projet privé, c'est un lieu associatif, n'importe qui peut venir. La particularité du lieu, c'est que il est géré par vraiment les gens qui ont envie de s'investir. On est dans une gestion horizontale. Il y a juste des référents, on va dire. Enfin, voilà, c'est un peu le dicton, c'est celui qui fait a raison. Et puis encore un truc qu'on peut dire, c'est on utilise le prix libre. Comme on a réussi à avoir un loyer pas trop élevé, toute participation se fait à prix libre. Est consciente, et donc l'idée du prix, enfin de ce choix, c'est de venir responsabiliser les gens, leur redonner le pouvoir de choisir quel est le prix et de redonner des références sur quelle est la valeur des choses.
Ouais, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions, c'était très intéressant. Nous allons maintenant pouvoir participer à la fresque du climat. Et cette émission sera diffusée sur Radio Albigès. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site internet. Et à bientôt.
Merci.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Bonjour à tous, nous sommes 5 étudiants en seconde année de soins infirmiers au sein de l'IFSI d'Albi. Je m'appelle Wilson.
Pauline.
Faustine.
Chloé.
Et moi Lisa.
Nous sommes ici dans le cadre du mois sans tabac. Oui, je sais ce que vous êtes certainement en train de vous dire, mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas là pour énumérer les méfaits du tabac sur votre organisme.
En fait, aujourd'hui, nous préférerions aborder un aspect plus optimiste des choses. Le tabac néfaste pour votre santé, vous connaissez. Mais pensons plutôt à tous les aspects positifs que son arrêt pourrait avoir sur notre vie de tous les jours.
Aujourd'hui, nous allons simplement nous rendre compte que c'est réellement possible. On peut tous le faire et y arriver pour peu qu'on ait l'envie d'y arriver et l'espoir. Justement, nous avons rencontré une personne qui nous en a apporté un bon paquet, sans mauvais jeu de mots. Cette personne fait partie des nombreux hommes, des nombreuses femmes qui sont parvenus de manière durable à arrêter de fumer. Comme elle pourra en attester, elle n'est pas un cas isolé.
Il est temps maintenant de laisser la place à Julie, qui va vous faire part de son nouveau quotidien. On pourrait peut-être même parler de nouvelle vie. Elle pourra bien mieux que nous vous montrer que ce n'est pas de la poudre aux yeux.
Bonjour Julie, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien et vous ?
Ça va. Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis quand avez-vous arrêté de fumer ? Et quelle était votre consommation de cigarettes journalières, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, donc, je m'appelle Julie, j'ai 50 ans. J'ai arrêté de fumer depuis début mars, donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, 7 mois. Et je fumais un paquet et demi par jour.
Donc, quelles ont été vos motivations pour arrêter de fumer ?
Bah, la motivation première, qui n'est un scoop pour personne, c'est on sait que c'est pas bon pour la santé. Ok. J'ai commencé à fumer, alors moi tard, hein, j'avais 30 ans, donc ça, j'ai fumé pendant 20 ans en l'occurrence. Plein de petites choses, et notamment ces derniers temps, en fait, avant de. Je m'apercevais que j'avais de plus en plus de. Un peu la honte de faire la bise à quelqu'un, sachant que je chantais la cigarette. Mes enfants aussi, mine de rien, mes deux filles qui régulièrement, c'est pas bien maman de fumer. Bon, tout le monde le sait, mais n'empêche, quand les enfants vous le disent, c'est différent. La voix, j'avais, moi qui aimais bien chanter, je n'osais même plus chanter toute seule dans ma voiture, parce que franchement, j'avais une voix de casserole. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et puis, enfin voilà, la dernière grande motivation, ça a été budgétaire. Un jour où j'étais le nez dans mes comptes, j'ai fait le calcul, parce que mon mari est fumeur également, et j'ai fait le calcul que voilà, ça nous coûtait à deux 750 euros par mois. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Voilà, toutes ces petites choses mis bout à bout m'ont dit, bah, faut que tu essayes.
Et donc, par rapport à l'aspect budgétaire, vous avez pu noter de réels changements ? Enfin, je veux dire, ça, à la fin du mois, ou même, mettons, sur 3 mois, ça a vraiment, vous pouviez vous acheter plus de choses, enfin, avoir d'autres plaisirs à côté ?
Ah ben, moi toute seule, donc mon budget, grosso modo, était de 300 euros à peu près, hein, pour moi toute seule. Donc oui, j'ai fait une économie de 300 euros. Et c'est vrai que sur les premiers mois notamment, quand j'ai commencé à me payer un truc, je me dis tiens, bah effectivement, je grève pas mon budget, je me fais ce petit cadeau-là, voilà, ce que je mets plus dans la cigarette, bah je m'achète un vêtement, je vais boire un coup avec les copines, je fais un resto. Mmh. Bon, c'était avant le confinement, hein, mais n'empêche que.
Vous nous avez un peu parlé de la condition physique. Est-ce qu'elle s'est améliorée ? Est-ce que vous avez réellement vu des changements ? Est-ce que vous vous êtes senti mieux après cet arrêt ?
D'un point de vue purement physiologique, oui. Parce que j'ai gagné en souffle quand même. Alors, voilà, ça fait jamais que 7 mois, donc je sais que je vais encore gagner en capacité respiratoire, mais je l'ai noté. J'ai gagné en odorat, vraiment. Alors ça a été assez rapide et radical. Si on associe la condition psychique et la condition physique, ouais, la fierté d'avoir arrêté, quoi, tout simplement. Et puis voilà, ça fait 7 mois que ça dure et je pense que je tiens le bon bout.
Par rapport à votre souffle, du coup, vous estimez pouvoir effectuer des performances sportives peut-être un peu plus longues ou alors en intensité, c'est plus élevé ou...
Oui, alors...
Enfin, vous avez changé un petit peu vos pratiques au niveau du sport ? Vous pouvez aller plus loin dans vos capacités ?
Oui. Alors moi, dans la partie sportive, je suis plus quelqu'un sur du dynamique que sur du long terme. Mais par contre, oui, je m'aperçois que je peux faire des efforts intenses plus facilement qu'auparavant. Et effectivement, j'en ai profité. Bon, certes, il y avait le confinement, mais j'ai repris pas mal le sport. Et je vois que ça m'aide. Clairement, ça m'aide. Mmh.
Comment avez-vous fait pour rester motivé ?
Alors, d'une part parce que, alors moi j'ai essayé l'hypnose en fait, voilà. Donc j'ai fait une séance d'hypnose et je me suis dit, les premiers jours effectivement, je savais qu'il fallait au moins attendre 3-4 jours pour être désintoxiqué de la nicotine. C'est une vraie addiction, hein, c'est une vraie intoxication. Donc les premiers jours, bon, n'ont pas été évidents. J'ai gardé mon paquet dans mon sac à main pendant plusieurs mois. Et puis à chaque fois, j'ai eu des envies, évidemment que j'en ai eu, mais je me suis dit, je pense que je peux tenir en fait. Je vais pas céder. J'ai pas cette telle envie tellement monstrueuse que non, je me suis retenue. puis une fois, deux fois, et puis au bout d'une semaine, finalement, là, on voit vraiment qu'au niveau de la nicotine, le corps, il est désintoxiqué, reste la gestuelle. Sachant que moi, mon mari est fumeur, et lui, il a continué à fumer. Hein. Donc, et puis, je me suis dit, mince, t'as passé une semaine, c'est un peu con de replonger. Pardon, c'est un peu bête de replonger. Donc, voilà, je... Et puis, voilà, ça fait 7 mois. Et honnêtement, ça ne manque plus du tout. Je n'y pense même plus. Pas non plus.
Et est-ce que vous avez ressenti des bénéfices sur votre morale ?
Non, sincèrement, si on veut être tout à fait honnête, la cigarette, on a plutôt tendance, pour ceux qui sont fumeurs, voilà, quand ça va pas, on va s'allumer une cigarette. Quand on a un coup de blues ou on est énervé, on va s'allumer une cigarette. Donc, pas dans ce sens-là. Par contre, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est la fierté. Et ça, c'est énorme. L'estime de soi. Et ça, c'est
donc, quelque chose de fort. Est-ce que vous avez plus de confiance en vous, maintenant ?
Non, je pense que je ne suis pas forcément quelqu'un qui... Je ne suis pas vraiment en déficit de confiance en moi. Mais encore une fois, cette fierté de l'avoir fait et de tenir bon, quoi. Et que voilà, moi, si je peux le faire, ben, y en a plein d'autres qui peuvent le faire. Parce qu'honnêtement, sincèrement, au début, je ne pensais pas que j'y arriverais. Hein.
Et donc, selon vous, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être arrêter de fumer est moins douloureux que ce qui se dit ? Parce qu'on entend très souvent, oui, vraiment, arrêter la cigarette, c'est très douloureux, le sevrage, c'est compliqué, ça dure très longtemps, c'est très dur pour le moral, d'où les rechutes. Donc, je sais bien que vous êtes un cas et que chaque personne est différente, mais est-ce que vous pourriez dire, vous, que, bon, peut-être c'est douloureux 3 jours, mais après, ça va mieux ? Rapidement.
Alors moi, en toute honnêteté, sur les 20 ans où j'ai fumé à plusieurs reprises, j'avais pensé au fait d'arrêter. Et je m'en étais jamais senti le courage. J'avais aussi peur de grossir, enfin peur de pas y arriver. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais tenter l'hypnose parce que j'en avais entendu parler en bien. Encore une fois, une séance m'a suffi, moi. C'est une grande chance. Et sincèrement, aujourd'hui, 7 mois plus tard, j'ai l'impression que ça a été sans aucune souffrance, que ça a été facile, en fait. Et maintenant, avec le recul, alors j'ai pas de regrets, mais je me dis que bah, voilà, si j'avais su ça avant, j'aurais essayé bien avant, quoi. Parce que franchement, ça a été simple. Pour moi, ça a été simple. Et pourtant, encore une fois, un paquet et demi par jour. Hein, j'étais une vraie fumeuse. Hein. Donc...
Excusez-moi, je me permets de rebondir juste. Vous parliez de la peur de la prise de poids. Et je pense que c'est un problème qui touche beaucoup, beaucoup de femmes, mais d'hommes aussi. Et donc, est-ce que vous pouvez attester qu'effectivement, vous avez pris du poids ou c'est peut-être juste...
Alors, oui, j'ai pris du poids, mais je n'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris 3-4 kilos. Le sport fait que ça m'a aidée. Oui, je suis aussi honnête. Allez. Au moins le premier mois, peut-être les 2 premiers mois, j'ai eu tendance à vouloir compenser. Alors moi, je suis une adepte du chocolat et des cacahuètes, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que j'en ai mangé plus. Mais bon, voilà, passé cette période, peut-être des 2 premiers mois, j'ai repris une alimentation plus normale. Bon, je mange toujours du chocolat le soir, hein, ça m'est pas passé, mais c'était d'avant. Et j'ai repris mon poids... Bon, puis voilà, le sport et tout. Franchement, au niveau de ma silhouette, je rentre toujours dans mes pantalons et tout va bien, quoi.
Et par rapport à l'hypnothérapie, d'après vous, c'est l'envie d'y arriver et la croyance en cette thérapie qui a fait que vous avez réussi en une séance ?
Alors, je pense sincèrement que... bon, déjà, il faut avoir envie de faire ce type de démarche. Et il faut lâcher prise. Il faut se laisser hypnotiser. J'ai tendance à penser que pour ceux chez qui ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait ils veulent garder une espèce de maîtrise de leur mental, de leur corps, enfin ouais, de leur mental.
Comme un mécanisme de défense.
Oui, voilà. Moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'est pas du tout quelque chose d'intrusif. Ça a été fait avec une grande bienveillance. Ça m'avait été très bien expliqué. On entend tout, on comprend tout, on garde la maîtrise. On sait ce qui se passe, hein, on est en totale conscience. Voilà, donc moi, je savais que je faisais confiance à la personne que j'avais en face de moi. Et après, voilà, cette personne a eu une technique, m'a bien expliqué, et puis m'a donné des images, et ça aussi, ça m'a aidé. Les quelques fois où j'ai failli flancher, je me remémorais les images qu'elle m'avait données, de ce cendrier dégoûtant, dégoulinant dans lequel je vivais. Et voilà, ça m'aidait à prendre du recul, à me dire, non, faut pas que tu flanches, tu continues. Voilà.
Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient arrêter justement ?
Je crois qu'il faut juste essayer et de se dire, ben, puis si ça marche pas, on joue pas sa vie, on recommence. Hein. Enfin, voilà, moi, l'hypnose, je me sentais pas capable d'arrêter seule. J'ai des amis qui ont arrêté avec des patchs, des choses comme ça. Moi, je m'en sentais pas capable. Voilà, pour moi, l'hypnose a été vraiment un accompagnement, une vraie aide. Donc oui, c'est quelque chose que je recommande aux autres. Et puis encore une fois, si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, on recommence. Mais bon, voilà, pour moi, ça a été bien plus simple que ce que j'aurais pu imaginer auparavant. Et je ne peux qu'encourager les gens à essayer, en tout cas.
Et est-ce que vous imaginez que ce serait du coup, parce que si je comprends bien, c'est un changement vraiment significatif et très important dans votre vie. Vous l'auriez imaginé aussi, enfin, est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances concernant la manière dont vous vous sentez, etc.
Encore une fois, moi, enfin, et puis ce qui est quand même assez important, c'est que c'est une addiction, encore une fois. Et aujourd'hui, je me sens libérée. Je suis pas en panique dès que j'ai plus de cigarettes à la maison. J'y pense plus. Hein, voilà. Un fumeur, il est dépendant de sa cigarette. Donc, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que ce soit les week-ends fériés ou pas, enfin, il faut qu'il aille acheter des cigarettes. Moi, j'ai plus ça. Et effectivement, je me sens beaucoup plus libre, en fait. Hormis l'aspect physique, etc., c'est la liberté, une espèce de liberté retrouvée. Cette dépendance en moins. Voilà.
D'accord.
Merci Julie pour votre témoignage plein d'espoir. Nous avons été ravis de faire cette émission à vos côtés et nous espérons que vos efforts perdureront.
Merci à vous.
À présent, nous allons faire un récapitulatif des bienfaits de l'arrêt du tabac. Pour commencer, au bout de 3 mois, on récupère du souffle et on marche plus facilement.
Il y aura également un meilleur vieillissement de la peau et des dents, comme vous l'a très bien dit Julie.
Vous aurez aussi une amélioration du goût et de l'odorat qui sera assez rapide.
Votre pouvoir d'achat va ainsi être augmenté. N'oubliez pas que si on fume un paquet par jour, on économise environ 300 euros par mois.
Vous observerez aussi une diminution du risque d'infarctus, qui diminuera d'au moins 50% selon la Fédération française de cardiologie.
Concernant les cancers, il ne faut pas oublier que le premier facteur de risque du cancer du poumon est le tabac. Il représente environ 80% des cancers du poumon.
Merci à Radio Champollion, merci encore Julie d'être venue. Et n'oubliez pas que avoir l'idée d'arrêter de fumer, c'est déjà gagné. Et surtout,
on arrête de fumer ensemble.
Radio Champo, la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champo.
Un grand merci aux étudiants et étudiantes de l'Institut de formation au métier de la santé d'Albi pour cet entretien. Merci à Julie pour son témoignage. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Champo sur Radio Albigès et on vous propose une petite interlude musicale avec le titre Time Warp, tiré de la bande originale d'un film culte dont Levana vous parlera dans quelques petites minutes pour sa chronique spéciale Halloween.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You bring your knees in tight. Where is the velvet crust? And then it does your insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under sedation.
Let's do the time warp again.
hands on your hips.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Albiges et de suite on retrouve Lévana. De quelle thématique féministe tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, pas de féminisme, mais j'avais un peu envie, le temps d'une semaine, de te copier et, et de faire mes petites recommandations culturelles sur la thématique d'Halloween.
Eh ouais, bah c'est du plagiat pour moi, qu'est-ce que je te dise ? Je porte plainte directement, c'est fini.
Donc j'ai envie de vous parler de deux films aujourd'hui. Le premier, c'est une comédie musicale qui est assez culte aux États-Unis, mais peu connue en France. C'est le Rocky Horror Picture Show. Est-ce que tu connais, Lucas ?
Oui. Ah, non, plaisir. Je connais pas.
Donc, c'est une comédie musicale qui est sortie il y a un petit bout de temps, en 1975, mais qui reste pour moi un ovni audiovisuel, même aujourd'hui, qu'on est tous obligés de regarder. Alors, le pitch est assez simple. On a Brad et Janet qui sont fraîchement fiancés et qui sont en train... En fait, ils tombent en panne de voiture.
De voiture, ouais,
exactement.
Je me doute parce que pas de... Ouais.
Ils tombent en panne et ils se réfugient dans un château qui est occupé par le scientifique travesti Frank Enfurter.
Wow, ça c'est un pitch, putain. Ça, je suis un peu jaloux, j'aurais bien aimé l'écrire, en fait.
Donc en fait, par la suite, Brad et Janet vont découvrir les habitants du château qui sont plus déjantés et excentriques les uns que les autres. Et ils vont découvrir ces personnages-là et les activités mystérieuses qui s'y passent. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il casse déjà à l'époque les codes hétéronormés. Donc on est un peu quand même dans la thématique féministe.
Tu restes dans ta thématique.
Exactement. Il représente un peu le reflet de l'époque post-années 60 qui s'est passée aux États-Unis avec tout le mouvement hippie où on voit la naissance d'une contre-culture qui est typiquement caractérisée par une inspiration de la révolution sexuelle.
Okay. C'est un peu drôle.
C'est très très drôle.
Okay.
C'est génial.
Avec ton pitch. Okay.
Donc on a typiquement donc, le personnage de Frankenfurter, qui est un homme travesti qui est complètement assumé et se présentant dans une chanson comme un sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Wow.
C'est-à-dire un gentil travesti de la Transylvanie transsexuelle.
J'avais compris, il n'y avait pas besoin de me... si, j'avais pas compris.
Et en fait, il va draguer autant Janet que Brad, donc ça montre aussi sa bisexualité, ce qui à l'époque est un petit peu avant-gardiste. Et en fait, c'est pour ça aussi que le show n'attirera pas du tout les foules à sa sortie. Et au départ, c'était un échec cinématographique complet. Et en fait, ce film est devenu culte, aujourd'hui grâce au public qui assistait aux seules séances programmées à minuit. Et en fait, ils ont formé un petit noyau de fidèles qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on trouve encore des séances nocturnes diffusant le Rocky Horror aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans les salles françaises. Typiquement à Paris, par exemple, où les spectateurs ont un rôle actif dans leur visionnage. Donc les spectateurs sont priés de se déguiser, de chanter pendant les chansons et de faire des chorégraphies.
Trop bien, putain. C'est trop bien.
C'est génial. C'est un de mes rêves d'assister à ça.
Je veux vivre ça.
Et en fait, du coup, le Rocky Horror détient le record de la plus longue sortie en cinéma depuis la première projection, qui date de plus de 40 ans. Donc, je vous conseille vivement de regarder le Rocky Horror, déjà par la singularité du film, à son esthétique ultra kitsch et de mauvais goût, mais ça en devient génial.
Ouais.
Et même si vous n'êtes pas forcément sensible aux comédies musicales, ça ne chante pas tout le long du film.
Okay.
Et les chansons passent vraiment bien, elles sont super entraînantes et elles resteront dans la tête après le visionnage.
Ok, putain, trop bien.
C'est génial.
Je suis passionnée par le kitsch. Tu as dit kitsch et mauvais goût, j'ai dit je vais adorer.
Je
vais adorer.
Mais je conseille ce film, vous allez passer un super bon moment. Et le deuxième film que j'ai sélectionné est beaucoup plus récent et plus adapté au grand public. Donc c'est le dessin animé Coco, diffusé en 2017 par le studio Pixar.
Ouais.
Est-ce que tu l'as vu ?
Oui. Non, je ne l'ai pas vu, mais il faut que je le voie.
Coco, en fait, retrace l'histoire du jeune Miguel, qui lors de Las Dias de los Muertos, donc on a parlé anglais, maintenant on parle un peu espagnol.
Je connais aussi.
Ce qui est, c'est la fête des morts. Donc ce jeune Miguel se retrouve par mégarde dans le pays des morts. Donc, on le retrouve lors de cette aventure et on le suivra à la recherche de son idole défunt qui s'appelle Ernesto de la Cruz, le célèbre guitariste, mais aussi on le suivra à la découverte de son histoire familiale. Donc, à travers cette culture hispanique de célébration des morts, le film aborde la thématique de la mort qui est appréhendée avec un autre regard que celui auquel on est habitué. Donc, c'est assez intéressant. Et en termes de réalisation, Coco est une merveille, merveille visuelle où le monde des morts est sublimé. Donc, en fait, on a une richesse de couleurs qui tranche parfaitement avec le sujet sensible qui est la mort. Rendant du coup le film accessible au plus grand public, aux petits comme aux grands. Ce film est extrêmement touchant à travers les sujets qu'il aborde, donc notamment la famille, la commémoration des traditions et des ancêtres. Et ce sont des sujets qui parlent à tout le monde, je pense qu'ils parlent à tout le monde. Et comme le fait si bien Pixar, la morale parlera autant aux enfants qu'aux grands. Donc je vous conseille de le regarder sans plus vous renseigner. Et de vous munir de boîtes de mouchoirs.
Parce qu'on va pleurer.
On va pleurer.
Mais oui,
ça fait plaisir de pleurer de temps en temps. Oui. Et pour ma part, je suis sortie en sanglots. Je pleurais à de chaudes larmes à la fin de la...
Tu es allée le voir au cinéma ?
Je suis allée le voir au cinéma, mais il est disponible sur Disney+.
Oui, c'est vrai. C'est trop... En vrai, Disney+, bon bref, on ne va pas en parler là. Parce
c'est
que
une
sinon,
autre thématique.
C'est une autre, mais c'est vraiment chambé.
Voilà.
Ok, écoute, merci.
Merci à
cette
vous.
Cette magnifique chronique, même si, je le rappelle, c'est du plagiat. je le répète. Merci Lévana, tu
mais
as été plus talentueuse que moi.
Avec plaisir.
Et puis, du coup, à la prochaine.
À la prochaine, où on abordera plus une thématique féministe cette fois-ci.
Je serai trop heureux d'être ici.
À la semaine prochaine.
Radio Champeau, la radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Et c'est la fin de cette émission Radio Champeau sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission, enregistrée évidemment avant ce second confinement. Du coup, malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir vous proposer une émission pour la semaine prochaine, mais restez à l'écoute, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous l'avez manqué, retrouvez cette émission en podcast en passant par la page Facebook Radio Champeau ou celle de Radio Albigès. Vous pouvez également nous suivre sur notre toute nouvelle page Instagram @radiochampeau. Bonne fin de semaine et à très vite sur les ondes de Radio Albigès.